Voilà.
Yeah.
C'est pas du vent. Le magazine de l'environnement sur RFI. Anne-Cécile Bras.
Bonjour, à qui appartient cette parcelle? Une question qui semble simple, mais qui, sous certaines latitudes, appelle une réponse hyper compliquée. En Afrique de l'Ouest, par exemple, qui dicte sa loi? Le droit coutumier, souvent oral, ou le droit national éloigné des contraintes locales et qui permet aux États de disposer à leur guise des terres des paysans? Vous me suivez? Le danger est grand de vous faire dégager quand vous ne pouvez pas revendiquer votre titre de propriété. Vous l'entendrez dans notre reportage dans le sud-ouest de la Côte d'Ivoire, dans la région cacaoyère de Nawa. Les tensions liées à la sécurisation des terres se jouent entre les femmes, les jeunes et les étrangers. Un exemple parmi d'autres, car ce sujet prend de l'ampleur au niveau international, à tel point d'ailleurs qu'il a été intégré dans le dernier rapport du GIEC, le groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat, sur l'état des lieux des terres émergées de notre planète.
C'est pas du vent sur RFI.
Bonjour Philippe Lavigne-Delville.
Bonjour Anne-Cécile.
Vous êtes directeur de recherche à l'IRD, l'Institut de recherche pour le développement, spécialiste du droit foncier en Afrique de l'Ouest. Alors est-ce que vous pouvez tout d'abord nous expliquer pourquoi est-ce qu'un sujet aussi technique que le droit foncier, c'est-à-dire la gestion de la propriété des terres, fait son entrée dans un rapport comme celui du GIEC qui a été publié l'été dernier sur l'état des terres émergées? Quel est le lien en fait entre le droit foncier et le dérèglement climatique?
Le GIEC, effectivement, dans son rapport, met en avant les enjeux de la gestion des terres et en montrant à quel point les modes de consommation de produits agricoles dans la planète et les modes d'exploitation de la nature, les modes de production, ce qu'on fait de l'agriculture, de l'exploitation forestière, de l'élevage, etc., ont un double lien avec les questions de changement climatique. D'une part, parce que cette façon, effectivement, d'utiliser la nature, de produire, sont impactées par le changement climatique, mais aussi parce que eux-mêmes influent sur le changement climatique. Et le rapport montre qu'effectivement, l'agriculture, l'élevage, l'exploitation forestière contribue pour à peu près 23% de la production de gaz à effet de serre.
Alors le rapport dont vous parlez, c'est le rapport qui a été publié début août.
Oui, effectivement. Et c'est extrêmement important et c'est urgent d'agir aussi sur ce levier, pas exclusivement, mais aussi sur ce levier pour essayer de maintenir le réchauffement de la planète à des seuils supportables. Et alors quand on parle de gestion des terres, il y a plusieurs choses à la fois. Il y a effectivement quels usages des terres. Est-ce que les forêts sont conservées? Est-ce qu'on fait de l'agriculture? Quel type d'agriculture? Plus ou moins intensive. Mais donc il y a les questions des différents usages des terres, mais il y a aussi forcément derrière la question des usagers. Qui exploite ces terres et pourquoi faire? Et c'est là qu'on retrouve la question du foncier, des politiques foncières, qui déterminent finalement qui peut avoir des droits légalement reconnus sur tel et tel espace, à quelles conditions, pourquoi faire, et qui intervient aussi sur la répartition des droits entre les différents exploitants, entre les agriculteurs et les éleveurs, entre l'agrobusiness et l'agriculture familiale, etc. Donc c'est dans ce sens-là que les politiques foncières, dans la façon dont elles structurent la répartition des droits sur la terre entre les différents acteurs, a un impact important aussi sur la dynamique des usages.
Alors cette histoire de la gestion des terres, enfin au sens large vous l'avez expliqué, mais des politiques foncières et du droit foncier en particulier, c'est un sujet qui prend de l'ampleur parce que ces sujets, on va le voir, a beaucoup de conflits. Hein. Quelle est la problématique générale des politiques foncières en Afrique ?
D'abord, peut-être avant même d'être de cibler sur l'Afrique, il y a dans les politiques foncières un dilemme permanent sur les finalités entre l'efficacité économique, la justice sociale et puis aujourd'hui, en plus, les questions d'environnement. Et tout au long du XXe siècle, finalement jusqu'en 1970, la question c'était la redistribution des terres, la réforme agraire pour donner des terres aux petits paysans qui n'en avaient pas, dans les politiques qui promouvaient plutôt l'agriculture familiale comme meilleure façon de produire et de faire de l'agriculture. À cette époque-là, en Afrique, le fait que les agriculteurs, les éleveurs n'aient pas de droits légalement reconnus n'était pas perçu comme un problème à l'époque. Et on a observé un tournant au milieu des années 80, au cours des années 80, où finalement cette question des inégalités entre agriculteurs n'était plus vraiment le sujet. et où c'est la question des droits sur la terre qui est devenue majeure. Avec les discours sur la sécurité foncière, il faut que les producteurs aient des droits reconnus par l'État, sécurisés pour pouvoir produire de façon efficace et paisible. Et cette question-là, finalement, a déplacé ou fait oublier un petit peu la question des inégalités. Et puis, en Afrique, du coup, elle était particulièrement prégnante parce que, historiquement, je disais, 80-90% des agriculteurs, des éleveurs n'ont pas de droits reconnus. Et donc, la gestion foncière relève de normes qu'on appelle coutumières, locales, sans forcément de lien très fort avec les politiques étatiques, et en tout cas le droit écrit, celui de l'État.
Oui, c'est ça, parce que vous dites pas de droit reconnu, ça dépend ce que l'on entend par droit. C'est-à-dire, il y a un décalage, en fait, entre le droit national, qui est souvent issu, d'ailleurs, un peu du droit colonial, hein, et le droit coutumier. Et c'est, en fait, le droit coutumier sur le terrain qui fait foi. Et c'est là où il y a des tensions, et potentiellement, et même réellement, des conflits.
Effectivement, historiquement, vous l'avez dit, le droit écrit, le droit de l'État sur les terres est un droit d'origine coloniale qui reprend très largement les dispositifs coloniaux, qui n'était pas fait à l'époque pour servir les intérêts de l'ensemble de la population. Il était fait pour servir les intérêts de la colonie. Et donc, on a un décalage, ce qu'on appelle un dualisme juridique, vous voyez, entre la façon de penser le droit sur la terre dans les textes de loi et la façon dont il est pensé et mis en œuvre à l'échelle locale dans les sociétés rurales. Et alors, le fait que les droits tels qu'ils sont reconnus dans les réseaux locaux d'interconnaissance ne sont pas reconnus au niveau de l'État, ce qui permet des expropriations sans dédommagement de la part de l'État et puis des abus de pouvoir de la part d'acteurs souvent urbains, aisés, connaissant bien les rouages administratifs, qui vont profiter de cette situation pour soit acheter à bas prix, soit négocier des droits sur la terre et faire ensuite comme s'ils les avaient achetés en demandant un titre foncier et finalement exproprier une partie des terres familiales, ce qui suscite effectivement des conflits.
Oui, c'est ce qui ouvre la porte notamment à ce qu'on appelle les accaparements de terres. Quels sont les pays où il y a le plus de conflits aujourd'hui sur le continent africain à cause de ces politiques foncières?
Les conflits fonciers sont jamais uniquement fonciers. Dès lors qu'ils dépassent les réseaux d'interconnaissance, dès lors que ça monte à l'échelle régionale ou nationale, ça se télescope forcément avec des enjeux politiques, avec de l'instrumentalisation politique, avec des conflits armés, etc. Par contre, ce qui est très clair, c'est que l'Afrique concentre effectivement ce qu'on a appelé les grandes acquisitions foncières, ou les accaparements fonciers lorsque l'on souhaite les critiquer, à cause aussi de ce dualisme légal dont je parlais tout à l'heure. Puisque formellement l'État est propriétaire des terres, ou en tout cas est censé s'en occuper dans l'intérêt général, eh bien, il est capable de négocier avec des investisseurs le fait de leur octroyer en bail de 50 ou 99 ans, de leur octroyer 1000, 5000, 10 000 ou 100 000 hectares.
Alors, pour bien comprendre les enjeux de cette problématique qui prend de l'ampleur, je vous propose d'aller en Côte d'Ivoire, où plus de 96% des terres agricoles ne sont pas recensées et où les exploitants ne détiennent pas, justement, de certificats fonciers. Les rapports fonciers sont principalement régis dans les villages par des droits coutumiers, comme on l'a évoqué. Les transactions s'opèrent oralement. Alors, en 1998, l'État ivoirien a voté une loi de sécurisation foncière pour parvenir, justement, à encadrer légalement les terres, notamment à travers ce que l'on appelle les délimitations des parcelles et l'obtention de titres fonciers pour les propriétaires, dont les non-ivoiriens sont exclus. Mais dans un pays où plus de 40% de la population est étrangère, venue du Mali, du Burkina Faso, du Bénin, du Togo, et qui exploite 90% des terres de la région de la Nawa, le cœur du cacao ivoirien, eh bien les conflits communautaires sont légion, notamment à cause justement de la remise en cause des transactions foncières passées. Alors à cela s'ajoutent les difficultés croissantes de culture du cacao affectées par la chaleur et une nouvelle maladie qui décime les récoltes au profit de l'EVA, très mauvais pour la survie de la terre. Alors 20 ans après la loi, si tout le monde s'accorde à dire que sécuriser la terre est incontournable, eh bien la loi a du mal à s'impliquer, incomprise des populations et impliquant des procédures trop chères. C'est dans la première région cacaoyère du pays, qui se classe au rang de 4e producteur mondial de l'or brun, que nous vous emmenons dans ce reportage, aux environs de Soubré, au sud-ouest de la Côte d'Ivoire, à 360 km d'Abidjan. À l'heure où la question foncière va s'inviter dans les débats politiques à la veille de l'élection présidentielle d'octobre 2020, les tensions liées à la sécurisation des terres concernent les femmes, les jeunes et les étrangers à qui Clémentine Métainier est allée tendre son micro.
Nous sommes à Niakoradi, dans la sous-préfecture de Upoyo et dans le département de Miyagi. Nous sommes à 9 km de Soubré, région de la Nawa.
Et vous, vous pouvez vous présenter ?
Moi, je suis Sabaï Clé Charles, chef du village de Niakoradi.
Et là, actuellement, on a pris un tout petit peu la voiture pour s'éloigner du village et nous sommes dans des champs de cacao.
Oui. Bon, effectivement, nous avons pris le véhicule, mais par rapport à la piste là, on a oublié de garer, c'est l'état de la route qui fait ça. C'est ça qui pose problème souvent pour l'écoulement des matières premières et des produits. Nous sommes à la petite saison du cacao. La traite intermédiaire il va bientôt prendre fin et puis laisser la place à la grande traite.
Ça veut dire quoi, la petite saison ?
La petite saison, c'est au moment où il n'y a pas de pluie. Au moment de la saison sèche, c'est la petite saison. Et puis au moment de la pluie, c'est la grande saison.
Mais est-ce qu'il pleut de moins en moins ? Vous constatez
oui.
Que les pluies sont rares ?
Bon, il a plu cette année, il a beaucoup plu. Mais hein, c'était un moment-là, surtout dans ce mois-là, c'est là que la pluie s'est arrêtée. C'est dans deux jours-là, il a commencé à pleuvoir.
Là, vous attendez la pluie ?
Oui, oui. On veut la pluie même maintenant. Les gens sont en train de planter. Bon, plus grave, c'est que, comment on appelle ça, la maladie du Schulensoot. Le Schulensoot, c'est une maladie de cacao qui n'a pas encore eu de remède. Donc ça détruit les champs de cacao, tout est gâté. Donc il faut refaire encore les nouveaux champs.
C'est une maladie qui vient d'où ?
Non, c'est pas, ça est dans le sol. Ça attaque comme ça depuis.
Et il n'y a pas encore de remède ?
Il n'y a pas de remède.
Il y a des zones qui ont été affectées, vraiment, infectées par la maladie.
Oui. Toute la zone là, affectée jusqu'au fleuve. Ça s'endra d'ici 22 km là, tout ça c'est mort. Il n'y a rien. C'est tout près du village là qu'il y a encore quelques pieds. Sinon, au fond là-bas, il n'y a plus rien.
Mais vous replantez même si c'est mort ?
Oui. Mais pour que ça ne meure pas, il faut faire l'abattage. Il faut couper tous les pieds là, brûler, pour que le sol brûle un peu, et puis les pieds qui sont restés là, brûlent. Comme ça, en remettant les nouveaux plants, ça ne peut pas gâter.
Vous êtes inquiet de cette situation ?
Oh, très inquiet, parce que le rendement a très baissé. On n'a plus de grands moyens.
Et alors là, on va rencontrer qui ? On se dirige à l'intérieur de la plantation ?
C'est une sœur là, elle s'appelle Saliwawa Margot.
C'est rare qu'une parcelle appartienne à une femme ?
Oui, dans le temps, c'était rare. Mais à un certain moment, les parents ont compris. Avant leur mort, quand même ils étaient vivants, ils ont cédé des parcelles à leurs filles. Donc aujourd'hui, ces filles-là, elles exercent tranquillement sur les parcelles sans problème. C'est pour elles.
Mais ce n'est pas le cas de toutes les femmes.
Dans la région, c'est peut-être ici seulement que les femmes, elles ont commencé véritablement à être propriétaires. Dans certains endroits ou bien dans certains villages, ça pose encore problème. Mais c'est ici que ça a commencé véritablement à se mettre en marche.
Vous le constatez aussi en tant que chef de village.
Voilà, c'est ça. Donc, c'est pour éviter aussi, en donnant la terre à une fille, c'est pour la rendre indépendante, pour la rendre libre. Elle va avoir elle-même ses propres moyens pour faire ce qu'elle veut faire. Mais si on ne lui donne rien, que tout le temps elle est sur le dos du papa, c'est pas bien.
Bonjour.
Bonjour. Bon, nous sommes dans la parcelle de ma grande sœur. C'est la Saliwawa Marguerite.
La parcelle ici, elle fait combien d'hectares ou de kilomètres ?
Bon, c'est un hectare qu'elle a fait. C'est sur ça nous sommes.
Normalement, la terre, la parcelle, aurait dû vous appartenir ?
Bon, la parcelle, c'est notre père qui lui a donné. Et comme je suis le petit frère, c'est moi qui le suis de près.
Je crois que c'est assez rare que les femmes soient propriétaires d'une parcelle.
Oui, jusqu'à présent, c'était très rare qu'une femme soit propriétaire d'une parcelle, mais les choses évoluent. Mon père, qui est décédé, a donné cette parcelle à mon petit frère, qui ensuite me l'a cédée et j'en suis devenue propriétaire.
Et pourquoi votre père a décidé de vous donner cette terre ?
C'était surtout pour avoir à manger. Les femmes vont toujours demander au père de les nourrir, mais lui m'a donné cette parcelle pour que je l'exploite directement. Et tous mes frères ont accepté. C'est quand je suis revenue dans le village quelques années après mon mariage et que j'ai vu mon père vieillir que je lui ai demandé. Je lui ai alors dit « Donne-moi une parcelle pour que j'aie un peu de cacao, un peu de manioc. Bref, tout ce qui est vivrier pour subvenir à mes besoins. » Et maintenant, je suis au village et je viens ici récolter avec l'aide de mes frères et de mes enfants.
Et donc, j'ai sous les yeux la lettre de reconnaissance de la détention du droit coutumier. Donc ça, c'est vous, le chef du village, qui, en fait, formalisez en fait, la transmission et le titre. Ça veut dire que ce papier, oui, il fait foi aujourd'hui aux yeux de l'État?
Je dirais oui, parce que ces papiers, nous sommes partis à la sous-préfecture avec. Nous avons remis les documents au sous-préfet, qui nous a remis de façon officielle. Puis nous sommes venus avec.
Et justement, vous, qu'est-ce que vous pensez de la loi de 1998 sur la sécurisation des terres? Est-ce que vous la connaissez et quelles sont les conséquences pour votre terre personnelle?
Je la connais, mais je n'ai pas les moyens.
Mais donc, comment ça va se passer? Si demain, l'État vient pour sécuriser, puisque ça va se faire petit à petit, si vous n'avez pas les moyens de le faire, alors que tout va bien, que tout s'est fait dans le droit, en tout cas coutumier, comment ça va se passer?
Ce que je peux répondre, et la loi elle-même n'est pas tout à fait encore appliquée comme souhaité. Il faut des moyens. C'est pour ça que depuis longtemps, on n'a pas fait ça. Mais avec le temps, on peut se débrouiller un peu. Et un peu d'argent, elle va chercher des moyens pour faire ça.
Donc c'est la famille, la personne qui décide le moment où elle a réuni les moyens pour le faire?
Voilà, c'est ça. Ça, c'est le ministère de l'Agriculture. Ils vont faire une expertise agricole. Ils vont venir regarder. Puis à partir de ce moment-là, ils vont fixer le coût. Pour voir, pour dire que bon, c'est comme ça.
À l'autre bout du village, en sortant des champs de cacao, on tombe sur le lieu de vie des étrangers. Maliens, Burkinabés, Béninois, Guinéens, Togolais et Ivoiriens du Nord cohabitent depuis des décennies dans ce village de 1700 habitants, attirés par l'or brun entre 1930 et 1980. Eux aussi sont concernés par la loi qui demande à délimiter leurs parcelles et acquérir des certificats fonciers. Mais jusqu'à présent, c'est le droit coutumier qui régit les relations foncières. En échange de la terre donnée par l'autochtone, ils remettent chaque année une partie de leur récolte, ou un poulet, ou 5000 francs CFA, c'est ce qu'on appelle le tutorat. Aujourd'hui, l'obligation d'écrire des certificats fragilise cette paix sociale. On voit apparaître des tensions intergénérationnelles et entre les différentes communautés.
Je m'appelle Robadi Azigi Innocent, et je suis le représentant des Béninois, et c'est comme ça, nous sommes ici depuis... En 1980, je suis encore d'ici.
Vous êtes arrivé du Bénin en 1980.
En 80. En même temps, j'étais un électricien. Et en exerçant ce métier, je vois que ça ne va pas. Je suis rentré dans la bourse. Et j'ai pris une petite portion pour faire du cacao.
Donc, Niakoragi, c'est le village où vous êtes arrivé?
Je suis arrivé dans le village et effectivement, j'ai demandé une place pour produire pour planter cacao. Effectivement, ils nous ont donné la place. Ils ne nous ont pas... Effectivement, exiger un prix. Et on a payé comme il faut, comme des frères.
Vous avez combien d'hectares aujourd'hui?
Moi, j'ai seulement 1,5 hectare de cacao avec moi. Et c'est avec ça que je nourris mes enfants. J'ai 14 enfants.
Que vous pouvez nourrir tous avec votre production de cacao?
J'ai commencé encore l'élevage des porcs.
Quelle est votre relation avec votre tuteur?
Pour moi, avec ce dernier, il est mon ami en même temps. Je l'ai pris comme mon frère. Et lui aussi, il m'a pris comme son frère. Et quand je rentre dans la famille, s'il y a de la nourriture, on mange ensemble. Donc si je vais au champ, je passe chez lui. S'il y a quelque chose, on partage ensemble. Si on se voit, mon frère. Et sa maman même m'a pris comme son fils.
Non. Est-ce que vous êtes au courant de ce que dit la loi de 1998 sur le foncier rural en Côte d'Ivoire?
Nous voulons délimiter nos parcelles pour voir que l'autre ne va plus rentrer chez toi. C'est ça qui envoie tout entre nous.
Vous l'avez délimité, la vôtre?
Non, je n'ai pas encore délimité. Je n'ai pas encore délimité ma parcelle.
Il faut quoi pour délimiter sa parcelle?
Il faut les moyens. Effectivement, nous n'avons pas les moyens pour délimiter. Vous voyez ce que je viens d'expliquer avec 1,5 hectare de cacao et 14 enfants. Je vois que vraiment, c'est du poids. Et tous sont à l'école. Comme ça, c'est...
Parce que vous devez payer un géomètre qui vient délimiter?
Justement, c'est ce qui est là. Le prix qu'on nous donne, vraiment, on ne paie pas.
Et vous dites c'est important de délimiter ma parcelle pour éviter que chacun vienne. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui comme problème sur votre parcelle?
Sur nos parcelles, tu es là, d'autres rentrent, d'autres prennent l'initiative. Et puis si tu n'es pas là, ils poussent un peu. Et au fur et à mesure, il n'y a pas l'âme qui peut se lever dans les champs.
Ça vous arrive, vous, ce genre de conflit?
Ça nous arrive. C'est des choses qu'on vécu chaque jour.
Alors, même, par exemple, avec qui, c'est qui les gens qui viennent sur votre passerelle?
Avec nos voisins de terre. Mon voisin, ça peut être comme un Malien, ça peut être comme un Guinéen ou bien un Burkinabé. Il peut pousser, puis ça va devenir palable.
Mais par exemple, vous ne construisez pas des barrières?
Non, on ne construit pas des barrières.
Pourquoi?
Bah, où on peut trouver les moyens encore pour. Si on veut, si on a des moyens pour faire les barrières, on va faire les papiers comme il se doit. Mmh. Mais comme il n'y a pas.
Ça ne se fait pas, ça vous fait rire parce qu'on ne fait pas de barrières.
On ne fait pas de barrières, justement. Nous, on n'a jamais vu même barrières. Comme vous avez parlé, de quoi je parle, sinon.
Et alors, vous connaissez la délimitation parce que vous avez des points de repère, un arbre par exemple, ou comment vous savez le point de repère sur vos parcelles?
Le point de repère, si on te donne une parcelle, si tu veux, tu plantes un cocotier et des orangers et ainsi de suite, les manguiers.
Alors, je me tourne vers vous, aux côtés d'Innocent. Kabore Moumouni, vous me disiez tout à l'heure être arrivé à Niakoraki il y a 25 ans. Vous êtes arrivé de Koudougou au Burkina Faso pour cultiver le cacao aussi. Vous avez combien d'hectares?
Actuellement, j'ai 7 hectares de cacao, départagés entre deux endroits différents autour du village. Mon tuteur est décédé, mais ses fils ont repris ses parcelles et depuis, on collabore ensemble sans difficulté. Des fois, ils viennent me voir sur ma parcelle. On se salue et s'ils ont un souci, je vais les aider. Il n'y a pas de problème.
Donc vous n'avez jamais eu de conflit en lien avec la terre?
Me concernant, je n'ai pas eu de problème de ce genre. Mais j'ai vu d'autres personnes être en conflit avec leurs tuteurs. Ça arrive de plus en plus, mais chaque conflit se règle au sein du village. Et après, c'est fini.
Quel genre de problème?
Par exemple, le père décide de céder la parcelle de brousse à un étranger pour qu'il l'exploite. Et ses enfants refusent parce qu'ils veulent la donner à quelqu'un d'autre.
Et aujourd'hui, il n'y a pas de conflit entre les autochtones et les étrangers? Il n'y a pas, à votre époque, je crois qu'il n'y en avait pas du tout, en tout cas très peu. On en voit de plus en plus, ça vous inquiète?
Voilà, donc il y avait.
À l'époque, il n'y avait pas de problème entre les tuteurs et nos parents. Ils sont apparus avec l'héritage. Aujourd'hui, toutes les terres sont occupées. Il n'y en a plus de cultivables. Or, les enfants grandissent, certains sont déscolarisés. Puis d'autres reviennent dans le village après un échec à Abidjan. Il faut bien qu'ils vivent. Si le papa est décédé, ça entraîne beaucoup de conflits et de disputes entre les tuteurs et nous, les exploitants, car les jeunes viennent et revendiquent des terres.
Pression démographique sur les terres, raréfaction des parcelles cultivables, aridité des sols due à la culture intensive de l'EVA, une simple étincelle et les conflits l'attendent aujourd'hui, pourraient s'ouvrir demain dans cette partie sud-ouest de la Côte d'Ivoire. En parallèle des tribunaux coutumiers, seule ressource pour désamorcer les tensions, une ONG sillonne les villages aux environs de Soubré. Elle va à la rencontre des populations pour accompagner à la résolution des conflits et expliquer la législation foncière, consciente qu'elle est un véritable enjeu des prochaines élections présidentielles d'octobre 2020. Alors nous venons d'arriver à Obrouayo, si je prononce bien, à environ 19 km de Soubré. Et on vient de faire 8 km sur piste. On arrive dans un village d'à peu près 10 000 habitants, mais qui a l'air bien coupé du monde, parce que quand il pleut, je suppose que la route est difficilement accessible. C'est ça, Désiré?
Oui, exactement, avec les collines, le relief qui est vraiment accidenté et tout. Quand il pleut, vraiment, on ne souhaite pas à quelqu'un de venir par là. Alors, donc, je suis Désiré Yuambi, je suis coordonnateur de projet au sein de l'ONG ASAPSU. Nous sommes à Soubré depuis 2013. Nous essayons d'aborder les questions foncières avec des localités que nous avons sélectionnées comme ça avec la collaboration de l'autorité administrative. Et donc ce matin, nous sommes dans une de ces localités qu'on appelle Obrouayo. Et donc là, ce matin, nous allons participer à une rencontre intercommunautaire qui va regrouper l'ensemble des groupements d'intérêts socio-économiques de ce village. Donc les représentants de ces... On a comptabilisé, identifié une vingtaine de groupements d'intérêts socio-économiques avec des représentants qui vont discuter de leur gestion foncière, comment est-ce que ces communautés se partagent la terre et comment elles arrivent à cohabiter en symbiose, en bonne entente. Parce qu'il y a beaucoup de conflits et l'ONG donc a décidé, avec l'appui du CCFD, de les mettre ensemble de façon inclusive pour qu'elles puissent débattre de des enjeux fonciers ici, donc dans ce village.
C'est un concept que vous avez mis en place qui s'appelle Terry Stories.
Ah oui, c'est une méthodologie innovante qui a été expérimenté depuis maintenant 2 ans, 3 ans. Nous-mêmes, étant acteurs de la société civile, nous avons bénéficié d'une formation du CIRAD, qui est le Centre de Recherche Agronomique de Développement de Montpellier, qui a conçu cette nouvelle méthodologie. Elle est innovante en ce sens qu'elle diffère des autres méthodologies classiques que nous rencontrons. Les participants à la discussion alors visualisent leur territoire villageois, donc autour d'un plateau de jeu, avec la matérialisation de leur parcelle de terre, et ensuite des scénarios, des événements autour desquels ces personnes discutent.
D'accord. Avec l'objectif de résoudre ou en tout cas prévenir des conflits?
Effectivement, de prévenir des conflits, mais surtout en proposant des solutions. Donc ressortir de nouvelles règles, une sorte de nouveau départ qu'elles décident de façon consensuelle de se projeter dans un avenir meilleur.
On y va?
On y va. Donc vous prenez place autour du plateau.
Alors je décris, c'est un plateau, effectivement un plateau de jeu qui a été fait à la main, je suppose, avec des petites couleurs vert-rouge, donc par deux, qui est en binôme de couleurs. Il y a des puits, il y a des cartes de couleurs bleu, noir. Voilà, on dirait vraiment un jeu comme un jeu pour enfants en bois.
Alors il y a le plateau de jeu comme un damier qui représente donc le territoire du village. Et ensuite, les pions qui matérialisent les terres, les petits carrés. Vous voyez là, il y a 4 couleurs, le jaune, le noir, le bleu et l'orange. Donc chaque quartier va matérialiser ses terres. On va leur expliquer qu'est-ce que c'est, parce que c'est tout nouveau pour ces communautés. Donc le collaborateur qui est un animateur, qui a été formé, va leur expliquer comment démarrer le jeu.
Les paniers que vous avez ici, il y a la couleur bleue, la couleur verte et la couleur jaune. La couleur verte, là, les petites graines, le jaune, chose qu'on appelle vivrier, et puis maintenant le bleu, l'élevage. Voilà. Donc, on va introduire maintenant les enjeux fonciers. Le premier enjeu qu'on va débattre ici, c'est l'arrivée d'un migrant. Un migrant qui arrive à Oubroyo, la procédure d'installation, comment on fait pour l'installer?
Moi, c'est Nyaoré Diagne Gaston, président du CVG-FRA, du comité de Oubroyo. Et en plus, je suis dans le comité sous-préfectoral, ça veut dire CGFR.
À quel genre de litige, de manière très concrète, faites-vous face dans ce village? Quels sont de quelle nature sont les litiges les plus fréquents?
De passement, donc, c'est les étrangers qui viennent là ne respectent pas les limites qu'on leur donne. Ça, c'est un. De deux, tu peux ne pas être là et puis des gens vont aller, peuvent vendre ta plantation à ton absence, à ton insu. Tu viens trouver des gens dedans. Et puis encore, puisque le régime en place privilégie les étrangers, de ce seul fait-là, les autochtones qui les avaient installés, s'il y a un problème, ils les surpassent. Souvent même, ils s'introduisent dans leur terrain, dans leur parcelle, et puis ils disent qu'il faut aller te plaindre où tu veux. On est tous ivoiriens.
Et pourtant, il n'y a pas d'accès à la propriété pour les non-ivoiriens.
Voilà. Mais comme ils sont là, et puis ils se disent que c'est eux aujourd'hui qui sont là, ils font ce qu'ils veulent sur nous qui sommes les propriétaires. Ceux à qui c'était intéressé pour leur octroyer un lepin, aujourd'hui là, c'est eux qui dominent ceux qui les ont installés.
Je suis le chef de Baoulé. Voilà. C'est moi je parle. J'ai dit pourquoi il m'a sauté et il est allé voir le chef de village.
Donc, c'est la communauté
dans ma Baoulé. Communauté, Baoulé. Voilà, c'est pas le chef de village. Ça, c'est ma communauté. Pourquoi il m'a sauté? Il ne m'a pas vu et il est allé voir le chef de village.
Alors, Désiré, qu'est-ce que vous pensez là du déroulement de l'atelier? Comment ça s'est passé selon vous?
Alors, donc, l'atelier s'est très bien passé. On avait des craintes parce que c'est des sujets sensibles. La cohabitation, la gestion collective des terres, c'est des sujets auxquels il faut faire très attention. Et nous pensons que ce matin, avec la participation de tous les représentants de chaque groupement d'intérêt socio-économique, les discussions se sont bien déroulées. Et nous pensons que la proposition qui sont sorties donc, de ces ateliers, nous pourrons donc les mettre encore dans une seconde phase en discussion afin de les faire aboutir sur des règles beaucoup plus applicables.
Alors, retour à Abidjan, après avoir fait les 360 km qui séparent Abidjan de Soubré. Retour à la capitale, et là j'ai rendez-vous au ministère de l'Agriculture, à la direction du foncier rural. Presque arrivé au but, au 25e étage au niveau du ministre de l'Agriculture, on me refuse une interview. Je souhaitais savoir si l'État a conscience des difficultés des populations à appliquer la loi, comme j'ai pu l'observer, et comment il y répond. Alors on me répète dans chaque couloir que le sujet foncier est trop sensible, que la question est trop complexe, et qu'il faut demander une autorisation une semaine à l'avance, envoyer ses questions, etc. Alors il faut dire que ce jour-là, à la fin du mois de juillet, la loi foncière de 98 est en train d'être amendée pour la troisième fois en 20 ans. Je comprends donc pourquoi la question est sensible. Je change donc de direction pour aller rencontrer Francis Ngang. Il est le coordinateur de la plateforme Alerte Foncier. C'est un collectif d'organisations de la société civile qui se sont fédérés il y a 3 ans autour de la question foncière. La plateforme se trouve à INADES Formation, qui est un réseau d'associations panafricains ivoiriens qui œuvrent pour un développement équitable en Afrique.
Oui, j'ai rendez-vous. On m'a dit de monter, j'ai rendez-vous avec Monsieur Francis. Merci.
Alors je rentre tout juste du ministère de l'Agriculture. Plus on monte dans les étages du ministère, plus on répète où le sujet est sensible. Pourquoi le sujet du foncier rural aujourd'hui est un sujet sensible en Côte d'Ivoire ?
Cette question, elle est sensible parce qu'il y a un moment, ça a été politisé, ça c'est la première des choses. Mais bien sûr qu'il faut comprendre que les enjeux fonciers, c'est pas seulement en Côte d'Ivoire, partout dans le monde, c'est quelque chose de central. C'est ce qui représente la souveraineté d'un État. Quand on dit un État est souverain, c'est parce qu'un État a le contrôle sur un espace géographique donné. Et donc, tous les enjeux politiques, économiques, sociaux, environnementaux se jouent autour du foncier. Pour la Côte d'Ivoire en particulier, puisque la question a été politisée à un moment donné, donc il y a des passions autour du débat concernant la question foncière. Et c'est même pour cette raison qu'Alerte Foncier a été fondée, pour pouvoir donner un espace de débat un peu libre, où les gens peuvent s'exprimer sans avoir la crainte, et que ce débat puisse être remonté au niveau des autorités, pour voir comment cette question de gouvernance foncière pourra être améliorée en Côte d'Ivoire.
Et donc, qui dit terre, dit ressources naturelles aujourd'hui, puisque le modèle agricole, en tout cas principalement dans la région de Soubré, repose sur le cacao, le café, l'EVA. Aujourd'hui, en quoi la sécurisation du foncier vient faire pression sur les ressources naturelles et l'accès à certaines ressources?
Est-ce que c'est la sécurisation foncière qui vient faire cette pression sur les ressources? C'est d'autres facteurs. C'est d'abord l'explosion de la population qui vient faire pression sur les ressources dans la terre. C'est l'investissement accru dans le secteur agricole par les populations qui est à l'origine, mais aussi la ruée vers les ressources naturelles dans la terre par les compagnies multinationales de l'agro-industrie pour aussi faire des plantations agricoles qui font tout cela. Donc cette pression, elle est bien sûr interne à travers l'explosion démographique, et aussi ça provient de l'externe à travers la ruée vers les terres par les compagnies multinationales. Et bien sûr, si on veut regarder les deux éléments, cette ruée vers la terre des compagnies multinationales provient aussi d'une politique bien pensée par l'international. On peut prendre l'initiative de la Nouvelle Alliance pour la sécurité alimentaire et nutritionnelle du G8. On a vu le modèle, c'est quoi? C'est, oui, les États du G8 viennent, ils demandent à l'État, bon, il faut modifier tes politiques pour que les entreprises multinationales puissent avoir accès et au marché, et à la terre, et aux ressources naturelles pour pouvoir produire. En soi-disant, pour pouvoir aider à améliorer la situation de la sécurité alimentaire et nutritionnelle. Donc, quel est le modèle qui est promu là-bas? C'est le modèle de grosse entreprise avec tout ce que ça comporte, l'utilisation de l'engrais, destruction de l'environnement, de la nature, réduction des espaces forestiers et tout. On voit que c'est ça qui est à la base de cette ruée et qui contribue aussi d'une manière ou d'une autre à cette pression.
De Clémentine Métainier, réalisé par François Porcheron. Philippe Lavigne-Delville, je rappelle que vous êtes socio-anthropologue à l'IRD, l'Institut de Recherche pour le Développement, et que vous êtes spécialiste des politiques foncières en Afrique de l'Ouest. Comment est-ce que vous réagissez à ce reportage ?
Je pense qu'il met le doigt effectivement sur des enjeux importants de la situation ivoirienne, parce qu'effectivement, cette loi de 98 et cette démarche de certificat foncier dont il est question renvoie à toute cette période des années 90-2000 où on a essayé effectivement de trouver des alternatives au titre foncier, donc à cette loi d'origine coloniale, pour trouver des façons plus simples, plus proches, plus accessibles de reconnaître légalement les droits des agriculteurs. Et cette idée de certificat foncier, c'était effectivement à la base la volonté de trouver des formes plus proches des réalités, s'ils pouvaient être individuels ou collectifs, et surtout des procédures qui soient plus accessibles, plus simples, etc. Et en fait, comme le reportage le montre, c'est pas si simple que ça pour plusieurs raisons. D'abord parce qu'effectivement, dans les balistotiers rurales sont différenciés et certaines catégories d'acteurs ne s'y retrouvent pas beaucoup. On a vu parler des femmes et puis surtout effectivement des migrants dont est soulignée l'importance en fait dans la production agricole en Côte d'Ivoire. Ce qu'il faut pas oublier, c'est que l'appel à des migrants du Mali, du Burkina Faso était structurel aux politiques agricoles sous Fouad Boigny et était à la source du miracle ivoirien qui a fait de la Côte d'Ivoire un des premiers producteurs mondiaux de café et de cacao. Et donc on a une installation de gens qui sont effectivement d'origine étrangère, soit de migrants à l'intérieur du pays, soit de migrants venant de pays d'à côté, disons de gens qui ne sont pas originaires du lieu, de la localité, et qui ont obtenu, négocié localement avec les autochtones entre guillemets, avec les gens installés là, qui ont négocié des droits sur la terre, qui les ont transmis, etc. Or, le problème, c'est que ces relations, le plus souvent, c'est fait sous une relation de type un petit peu clientéliste. Je te donne le droit de cultiver, de planter une plantation de café cacao, mais on reste en relation, tu dois m'aider pour des funérailles, pour des fêtes. Donc, on est sur une relation qui n'est pas un don, qui n'est pas une vente définitive des terres aux migrants. Or, dès qu'on parle certificat, c'est une personne qui peut voir ses droits reconnus. Et du coup, c'est lequel ? Est-ce que c'est la famille autochtone donc qui, 15 ans ou 20 ans auparavant, a octroyé les terres à un migrant qui est venu? Est-ce que c'est cette famille autochtone qui va se faire enregistrer ses droits et finalement récupérer des terres qu'il avait autrefois cédées, au risque de précariser des migrants qui l'ont exploité depuis 10, 15, 40 ans? Ou est-ce que ce sont les migrants qui, exploitant les terres depuis, encore une fois, un certain nombre d'années, se font reconnaître, ce qui revient à acter le fait que les droits d'origine coutumière qui s'exerçaient dessus, le droit des familles qui historiquement ont autorisé ces personnes-là à s'installer, que ces droits-là finalement ont disparu. Et ceci fait partout une tension effectivement sur qui peut se voir reconnaître par un certificat foncier. Et dans le contexte de la Côte d'Ivoire de 1998, où on avait des tensions politiques croissantes avec la guerre civile qu'a connue le pays, les non-ivoiriens ont été exclus de l'accès au certificat foncier, ce qui revenait à finalement les priver des droits qu'ils avaient négociés et acquis quelquefois depuis plusieurs décennies.
Alors ça c'est pour les non-ivoiriens, mais même pour les ivoiriens c'est compliqué d'appliquer cette loi, parce qu'en fait les certificats, on l'entend, sont chers, et puis il faut comprendre ce que ça veut dire, rédiger un certificat, il faut savoir basiquement écrire, lire.
Oui, tout à fait. Ça, c'est la deuxième partie de la difficulté à développer cette idée qui paraît pourtant excellente de certificat foncier. C'est que, malgré les volontés de simplifier, de rendre accessible, enfin, certains acteurs veulent simplifier et rendre accessible, mais d'autres arguent qu'il faut des procédures très très rigoureuses pour justifier l'intervention des géomètres, justifier de multiples étapes administratives qui fait que, in fine, on se retrouve, et ça a bien été dit dans le reportage, par des certificats qui coûtent extrêmement cher. Et de fait, les certificats fonciers sont demandés plus par des acteurs urbains qui investissent dans des plantations d'EVA sur 10, 20, 40 hectares que par les agriculteurs qui soit ne connaissent pas effectivement les démarches et les procédures ou soit ne peuvent pas payer les sommes qui sont nécessaires.
Voilà, et c'est là où ça devient compliqué et pour la préservation de l'environnement et pour la lutte contre la pauvreté et pour la sécurité alimentaire, parce que ça ne préserve pas l'agriculture familiale, et c'est là où on rejoint finalement tous les enjeux environnementaux et la perspective de garantir à une population un développement durable de son territoire.
Oui, c'est clair que ça ne joue pas le rôle espéré au départ de renforcement de l'agriculture familiale. Alors après ça, il y a plusieurs types d'agrobusiness et plusieurs types d'agriculture familiale. Vous savez, c'est pas parce que vous êtes un investisseur que vous faites forcément de...
Oui, bien sûr, on va pas caricaturer.
Mais globalement, effectivement, à l'échelle de la planète, l'agriculture familiale reste la meilleure façon de conjuguer efficacité économique, justice sociale et effectivement préservation de l'environnement. Pour autant que l'agriculture familiale soit dans un environnement économique qui lui permette de vivre. Lorsque la pression sur les terres est trop importante du point de vue démographique, lorsque les prix sont trop bas, eh bien effectivement, même les agriculteurs familiaux, même s'ils savent qu'ils sont en train de surexploiter leur environnement et de scier la branche sur laquelle ils sont assis, quelquefois n'ont pas d'autre choix que de le faire.
Alors vous évoquiez rapidement les femmes. C'est vrai que l'accès à la propriété pour les femmes est compliqué en Côte d'Ivoire et en Afrique. En général,
c'est avant tout l'accès des femmes à l'héritage qui est problématique. Dès lors que le marché foncier existe, dès lors qu'il est normal de pouvoir acheter ou vendre la terre, il n'y a aucun obstacle à ce que des femmes puissent acheter de la terre et devenir propriétaires au sens strict des terres qu'elles ont achetées, moyennant le fait évidemment qu'elles en aient les moyens financiers. C'est à l'héritage qu'il y a un problème, parce que on est dans la plupart des régions, là aussi l'Afrique est très vaste et difficile de généraliser, mais disons qu'on est globalement dans une logique où la terre est conçue comme un patrimoine familial, quelque chose que l'on doit transmettre à ses enfants et aux futurs descendants. Et dès lors, on doit l'augmenter si possible, on doit éviter de le diminuer, de l'amputer. Et dans des contextes où il n'y a pas de sécurité sociale, pas de protection sociale offerte par l'État, la seule façon pour un membre d'une famille qui a un problème, qui perd son boulot, qui est en difficulté, etc., c'est de revenir au village, c'est de demander une parcelle à la famille, c'est de pouvoir cultiver un petit peu au moins pour pouvoir subsister. Et dans cette logique-là, effectivement, il faut maintenir le patrimoine pour les descendants. Et dans les argumentaires des acteurs ruraux, une femme n'hérite pas parce qu'elle quitte sa famille. elle va épouser un mari dans une autre famille, elle va dans la famille de son mari, et donc si elle emportait entre avec elle les droits sur la terre, et bien les terres dont elle a hérité ne seraient plus disponibles pour les enfants du lignage. En même temps, effectivement, les choses changent, évoluent, il y a des endroits dans lesquels les femmes commencent à pouvoir hériter, mais c'est ça vraiment le nœud de la question.
Alors, on l'a dit, hein, Philippe Lavigne-Delville, en guise de conclusion, ce sujet du droit foncier, de la politique foncière, hein, comment est-ce qu'on gère les terres et comment est-ce qu'on gère le droit de propriété de ces terres, c'est un sujet qui prend de l'ampleur en ce moment. Est-ce que vous avez l'impression que, par exemple, la façon dont la Convention des Nations Unies pour lutter contre la désertification s'intéresse au sujet est la bonne ? Est-ce que ça va dans la bonne direction ?
Oui, c'est intéressant ce sujet-là par rapport justement au lien entre politique foncière et puis désertification ou environnement. J'avoue que je suis assez inquiet de ce que j'entends de la façon dont la Commission contre la désertification prend la question. Parce que devant le constat qu'une part importante des terres sont dégradées, elle considère qu'il faut des investissements pour les remettre à niveau et qu'il faut mobiliser ces moyens aussi avec le secteur privé. Alors, oublions qu'en fait, l'essentiel de l'investissement fait dans les terres agricoles, ce sont les paysans qui le font, en travail, bien plus qu'en capital ou en argent. Oublions que, encore une fois, quand ils sont dans des conditions économiques qui sont viables, les agriculteurs sont globalement les meilleurs protecteurs de la nature. Hein. Il ne faut pas idéaliser, angéliser, mais tout de même. Et le raisonnement, c'est de dire, on va mobiliser des capitaux privés, donc, pour qu'ils investissent et remettent les terres en état, et pour que ces investissements privés soient rentables, on va concéder les terres pour 20, 40, 50 ans à ces investisseurs, et puis quand ils auront remis les terres en état, et ils vont les prêter, les louer, on ne sait pas bien, aux agriculteurs qui seront tout contents d'avoir des terres remises en état. Et vous voyez bien que ces exigences de rentabilité du capital, enfin déjà, agronomiquement, c'est discutable qu'il faille forcément toujours des investissements et des investissements privés. Et puis, les taux de rentabilité que cherchent les investisseurs internationaux sont complètement incompatibles avec ce qu'on peut attendre de contrats, de location de terres à des petits producteurs ensuite, quoi. Et donc là, il y a quelque chose qui ne peut pas marcher, à mon avis, sauf peut-être dans des cas très 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 particuliers, et surtout qui porte le risque d'être une façon de continuer l'accaparement des terres, non plus sur l'angle productif, mais sous l'angle de l'environnement, et de poursuivre ces logiques de dépossession finalement des agriculteurs familiaux au profit d'une financiarisation de l'agriculture et de l'environnement.
Un sujet à suivre donc. Merci beaucoup Philippe Lavigne-Delville pour toutes ces explications.
Et ben merci à vous.
Aux équipes de France Bleu Hérault qui nous ont permis ce duplex depuis Montpellier. Merci à François Porcheron pour la réalisation de cette émission et à vous pour votre fidélité. N'oubliez pas, il y a une vie après cette émission. Vous pouvez nous retrouver sur les réseaux sociaux ou nous réécouter en podcast sur l'application Pure Radio de RFI. Prenez soin de vous et des vôtres. On se retrouve la semaine prochaine. Même planète, même heure.
J'ai cru que tu m'aimais, pourtant c'est faux. Tu ne m'aimais qu'à cause de mon argent. L'argent est fini, l'amour.